La fin de la République. La République au milieu du 1er siècle est en pleine agonie. La noblesse sénatoriale est contrainte d'accepter, selon l'exemple des royaumes hellénistiques, la monarchie même issue d'un général victorieux. Après Sylla, César essaie d'imposer la solution monarchique. Il échoue, mais la voie est préparée pour Octave, qui va organiser ce type de gouvernement et assurer la paix jusque dans les provinces. Pour ne pas s'aliéner l'oligarchie sénatoriale, il conserve des apparences républicaines. C'est le régime dit du principat. Octave est désormais princeps senatus, c'est-à-dire premier des sénateurs. Ce régime nouveau sauvegarde quelques apparences républicaines tout en étant véritablement impérial. On a l'habitude de désigner sous le nom de 12 Césars les 12 premiers empereurs de Rome, en comprenant parmi eux Jules César. Sa vie est un roman. Jules César, 100 à 44 avant Jésus-Christ. Le plus célèbre de tous les enfants de Rome a connu une fin tragique, mais sa vie comporte les événements les plus rocambolesques. Mettons sans hésiter nos pas dans ceux de César, du moins pour le moment. Eh oui, avant d'être un dictateur chauve, César a été jeune, de famille noble, prétendant même descendre à la fois d'Énée, glorieux fondateur du monde romain, et de la déesse de l'amour Vénus. Et l'amour, César le fête avec ardeur au milieu de fêtes somptueuses, réfugié auprès du roi Nicomède de Bithynie, au nord-ouest de l'actuelle Turquie, pour échapper aux assassins envoyés par le dictateur Sylla. Sur la route du retour à Rome, à la mort de ce dernier, en 78 avant Jésus-Christ, il est capturé par des pirates qu'il fera plus tard crucifier.
César, père du calendrier. Le mot calendrier vient de calendes, les premiers jours du mois, date à laquelle les Romains payaient leurs dettes. Jusqu'à Jules César, le calendrier est lunaire, si peu pratique qu'il est parfois difficile de se mettre d'accord sur la date exacte. Établi par le prêtre de plus haut rang, le grand pontife, il compte 355 jours, répartis sur 12 mois, plus un mois de 20 jours tous les deux ans, placé par le grand pontife où il veut. Il est affiché sur les murs des temples pour que les citoyens s'y retrouvent. L'année débute en mars. César demande à Sosigène d'Alexandrie un nouveau système, qui devient le nôtre. Une année de 365 jours, avec 12 mois de longueur inégale. Pour coïncider avec le temps de rotation de la Terre autour du Soleil, un 366e jour est intercalé tous les 4 ans, ce qui donne une année bissextile. Pour les Romains, ce jour supplémentaire était le 24 février. 6 jours avant mars, qui se dit en latin « bissexto ante », d'où l'année bissextile.
Mais il faut songer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au pouvoir. César en gravit toutes les marches. De 62 à 61 avant Jésus-Christ, il est prêteur, puis proprêteur d'Espagne, qu'il pille consciencieusement pour régler une partie de ses immenses dettes. En 60 avant Jésus-Christ, il fait partie du triumvirat avec Crassus et le général Pompée. En 59 avant Jésus-Christ, il est nommé consul et devient l'année suivante proconsul de Gaule Cisalpine, notre Languedoc, et de Narbonnaise, qui sont également pillés. En 57 avant Jésus-Christ, les Belges, redoutables guerriers, sont battus par les légions de César, qui écrasent la révolte d'Ambiorix en 54-53 avant Jésus-Christ. 53-52 avant Jésus-Christ, la révolte de Vercingétorix en Gaule est matée. Vercingétorix sera étranglé dans son cachot en août 46. Entre 51-49 avant Jésus-Christ, alors que Crassus meurt en 52, la rivalité avec Pompée s'exacerbe. César revient en Italie et franchit en janvier 49 le Rubicon, ruisseau tenant lieu de frontière symbolique qu'aucun général romain n'avait en principe le droit de franchir avec ses légions. C'est le moment du fameux Alea Jacta Est, les dés en sont jetés, qu'il n'a probablement jamais prononcé. 9 août 48 avant Jésus-Christ, Pompée est battu en Grèce à la bataille de Pharsale, mais parvient à fuir en Égypte. Parvenant à son tour en Égypte, César est accueilli par le pharaon Ptolémée XIII qui lui offre la tête de Pompée. Mais il rejette l'idée de cette mort indigne pour un grand général romain. Il en conçoit dégoût et mépris pour le souverain d'Égypte qui, défait, va se noyer dans les marais en mars 47. En 47 avant Jésus-Christ, au printemps, Cléopâtre offre à César une croisière sur le Nil qu'il remonte jusqu'à l'actuel Assouan. Le 2 août, César prononce le fameux « Veni, vidi, vici »« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». La victime est le roi Pharnace du Pont, région du bord de la mer Noire. Retour à Rome. Le 4 avril 46 avant Jésus-Christ, les partisans de Pompée sont écrasés en Afrique du Nord. César devient dictateur pour 10 ans. Le 17 mars 45 avant Jésus-Christ, le fils de Pompée qui a levé une nouvelle armée est battu à Munda, non loin de l'actuel Cordoue en Espagne. Cherchant à fuir, il est massacré par ses propres soldats. En février 44 avant Jésus-Christ, César est nommé dictateur à vie, mais vise à un pouvoir plus absolu encore. Une première fois devant le peuple assemblé, un proche amorce le geste de lui poser une couronne de feuillage sur la tête. La foule gronde et César repousse le geste qui aurait fait de lui un nouveau roi. La foule l'acclame. Le 15 mars 44, séance solennelle au Sénat. Un groupe de conjurés redoute que César ne se fasse attribuer le titre de roi. Il l'assassine de 22 coups de poignard avant son entrée. Selon la légende, son fils adoptif Brutus aurait porté le coup fatal. L'apercevant, César se serait couvert la tête d'un pan de sa toge, acceptant sa mort en lui disant « Tu quoque fili ». Toi aussi, mon fils. Quelques Césars fameux. Du plus sage au plus inquiétant, effectuons une incursion parmi les détenteurs de la toge impériale. Auguste, qui gouverna entre 27 avant Jésus-Christ et moins 14 après Jésus-Christ, met en place le régime du principate. En principe, cela signifie qu'il est le premier des sénateurs, princeps senatus. En réalité, il a tous les pouvoirs, civils et religieux. Il est l'empereur, le premier. Il abandonne le nom d'Octave et reçoit le titre d'Augustus, Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Terme qui veut dire vénérable, sacré. Tibère. 14-37. Fit assassiner Germanicus, son successeur désigné, un peu trop populaire à son goût. Il mit à mort nombre de sénateurs. Sa villa de Capri, où il se retira, aurait été le théâtre de fêtes monstrueuses et un lieu de torture.
Le saviez-vous? Un séducteur patenté. Ptolémée XIII n'est pas seulement veule. Il est jaloux de sa sœur, Cléopâtre VII, même s'il l'a épousée. Belle, cultivée, elle a déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, ordonnées par son alcoolique de frère. Dans son palais d'Alexandrie, César reçoit un jour en cadeau un somptueux tapis. Afin de l'admirer, il le fait dérouler, révélant Cléopâtre, qui avait trouvé cet habile moyen de se placer sous sa protection. Ils se séduisent mutuellement. Follement épris, César reviendra à Rome avec Cléopâtre, dont il aura un fils, Césarion. Mais les Romains apprécient peu la présence de Cléopâtre, et surtout la soumission amoureuse de César. Que le grand conquérant ait une maîtresse, il n'y a rien à y redire. Qu'il l'installe non loin de sa femme légitime, passe encore. Mais qu'il en soit amoureux et le manifeste, voilà qui passe les bornes. La dignitas, la gravité romaine, en est insultée. Car César avait la réputation d'être un séducteur, et personne, à part le Sénat, et les partisans de Pompée ne semblent avoir été en mesure de résister à ces manœuvres de séduction. Lors du triomphe célébré après ses victoires en Gaule, les légions, suivant le char de leur général triomphateur, apostrophaient d'ailleurs les spectateurs de propos sans équivoque. « Romains, cachez vos femmes, vos filles et vos fils, voici César le séducteur. Il est chauve, mais ne vous y fiez pas, il plaît. » Nul ne sait si César appréciait la formule, mais il était d'usage, lors du triomphe, de laisser licence aux soldats de brocarder certains aspects physiques ou de caractère de leur général.
Caligula, 37-41. S'unit à sa sœur Drusilla, nomma son cheval Inquitatus consul et fut lui aussi grand exterminateur de sénateurs qui l'obligeaient à se suicider avant de confisquer leur fortune. Un jour, malade, il entendit un flatteur s'exclamer « Comme j'aimerais souffrir à la place de l'empereur !» Caligula lui répondit « Ton vœu va être exaucé !» Et il le fit aussitôt exécuter. Néron, 54-68, aurait fait assassiner Britannicus, son demi-frère, ébouillanté sa première femme, Octavie, piétiné la seconde, Poppée, tué d'un coup de glaive sa mère Agrippine. Il aurait obligé son précepteur, le philosophe Sénèque, à se suicider, ainsi qu'une partie du Sénat. Puis il brûla Rome, ce qui est vraisemblablement faux, accusa les chrétiens et les livra aux fauves. Vespasien, 69-79. Proclamé empereur par ses troupes en août 69, réorganise l'Empire après le règne agité de Néron. Il consolide les frontières de l'Empire, restaure les finances de l'État, rend son prestige au Sénat mais pas son pouvoir. Vespasien est connu pour son avarice proverbiale. Lassé de voir les Romains se soulager partout dans les rues, il fait construire des toilettes publiques, les fameuses Vespasiennes, et s'empresse aussitôt de les taxer. Le premier impôt sur l'urine, en quelque sorte. Son idée n'est pas perdue, une piécette est toujours nécessaire. Titus, 79-81, est le fils aîné de Vespasien qui le désigna comme son successeur avant sa mort, dans l'espoir d'établir une règle stable de succession au trône. Réputé pour sa modération, il aurait refusé tout au long de son règne de signer une seule condamnation à mort. Il est surnommé « les délices du genre humain », ce qui ne l'empêcha pas, en 70 avant d'être empereur, d'écraser dans le sang une révolte juive à Jérusalem et de détruire le temple de Salomon. Le mur des Lamentations est le nom que les chrétiens donnent au soubassement du temple de Salomon. C'est tout ce qu'il en reste après sa destruction par Titus. Pour éviter toute nouvelle révolte de la communauté juive, Titus est aussi à l'origine de la diaspora, la dispersion des Juifs tout autour de la Méditerranée, dans les provinces de l'Empire. Dispersés, leur contrôle devenait plus facile pour les Romains. Bien conscient d'un empire devenu trop grand pour être efficacement contrôlé, Adrien, 117-138, en limite la taille, quitte à abandonner quelques conquêtes récentes, Mésopotamie, une partie de l'Arménie. Il fixe les frontières de l'Empire, le limès. Nous en avons une trace avec les ruines du mur d'Adrien, séparant l'Angleterre de l'Écosse. Organisateur de l'espace, il l'est aussi du droit, promulgue un code qui réunit toutes les dispositions du droit romain. Cultivé, maniant parfaitement le grec, il témoigne d'une âme sensible. En 132, Adrien décide de raser Jérusalem et d'y construire une nouvelle ville sur le modèle grec. Une révolte éclate aussitôt que les Romains mettront 4 ans à vaincre, menée par Simon Bar Kokhba. Après la révolte, Adrien construit sa ville, Aelia Capitolina, sur les ruines de Jérusalem et interdit aux Juifs d'y résider.
Le saviez-vous ? Fou, cruel et dégénéré. S'appliquant aux empereurs romains, cette vision sans appel nous vient surtout de Suétone, un auteur chrétien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui, dans sa vie des 12 Césars, veut à tout prix prouver que le paganisme ne peut engendrer que des monstres. Ainsi, Caracalla, 211-217, fait exterminer les jeunes hommes d'Alexandrie, qu'il trouvait trop grands car il est de petite taille. Il est présenté comme un monstre débauché, un nain difforme, jaloux de tout ce qui le dépasse. Héliogabale, 218-222. Épouse plusieurs hommes, enlève puis contraint à l'épouser la grande Vestale et meurt assassinée dans les latrines. Constantin Ier le Grand, 306-337, leur contre-modèle. Après avoir éliminé militairement ses concurrents au trône, est seul empereur en 312. En 313, par l'édit de Milan, il accorde la liberté religieuse aux chrétiens, jusqu'alors plus ou moins tolérés ou persécutés selon les empereurs. En 324, Il se débarrasse de l'empereur d'Orient, Licinius, et règne désormais sur les empires romains d'Occident et d'Orient. En 330, il change de capitale et fonde Constantinople, la ville de Constantin, mieux placée au cœur de son immense empire. En 325, il organise et préside le Concile de Nicée, réunion générale de l'Église, où est condamnée la doctrine d'Arius, l'arianisme, qui faisait de Jésus un homme et non Dieu. Puis il meurt en 337, après avoir reçu le baptême des mains de l'évêque Eusèbe de Nicomédie, devenant, mais un peu tard, un empereur chrétien. Intellectuel, Marc Aurèle, 161-180, est adepte de la philosophie des stoïciens. Cela ne l'empêche pas de mener, avec ses généraux, des campagnes militaires contre les barbares révoltés aux frontières. Respectueux du Sénat, il le consulte, s'entoure de conseillers cultivés, mais laisse persécuter les chrétiens, qu'il voit comme un danger pour la cohésion de l'Empire. Pessimiste, suicidaire, il est accablé par la peste qui sévit pendant plus de 15 ans, à partir de 165, et dont il meurt lui-même le 17 mars 180. Théodose Ier le Grand, 378-395. C'est lui qui impose véritablement les décisions, ou canons, prises au Concile de Nicée en 325. En 381, il reconnaît la suprématie du pape, qui n'était qu'un évêque parmi d'autres, et devient le souverain pontife, à la tête de l'Église. Il persécute les païens avec férocité. En 390, il publie un édit interdisant tous les cultes païens dans l'Empire et ordonne la destruction des temples, provoquant le pillage de la bibliothèque d'Alexandrie. Romulus Augustule, 475-476. Le dernier empire romain n'eut pas droit au titre d'Auguste, mais au sobriquet d'Augustule, le petit Auguste. Le chef barbare, Odoacre, dépose l'adolescent, qu'il assassine probablement. Une version plus optimiste voudrait qu'il ait été enfermé dans un couvent avec une pension. La capitale avait déjà été prise et pillée en 410 par Alaric, roi des Visigoths, puis par Genséric, roi des Vandales, en 455. L'empereur d'Orient, Zénon, enregistre, non sans satisfaction, la nouvelle situation qui fait de lui le seul à porter le titre impérial et donne à Odoacre le titre de roi d'Italie. Le saviez-vous ? Constantin l'Inconstant. La vie de Constantin, premier empereur de Rome converti au christianisme, est jalonnée d'expériences mystiques. En 312, avant la bataille dite du pont Milvius, le chrisme, symbole du Christ formé des lettres grecques qui et rho entremêlées, lui apparaît en songe. Une voix lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Le lendemain, il le fait représenter sur ses étendards et remporte la victoire. En revanche, Constantin ne fut pas toujours si chrétien lorsqu'il s'agissait de manifester des sentiments charitables. Par jalousie, il fit ainsi ébouillanter son épouse Fausta dans son bain et exécuter son fils et successeur Crispus.
Les plaisirs et les jours, fêtes, spectacles et jeux. La vie quotidienne des Romains n'est pas faite uniquement de lois et de luttes pour le pouvoir entre deux triomphes. D'autres moments intimes et festifs rythment l'existence. La vie n'est pas dictée par une semaine de 7 jours, mais par la décade, période de 10 jours. Le 10e jour est le jour de congé. Il est souvent consacré aux sorties. Gratuit, car subventionné par un magistrat qui veut plaire au peuple, le théâtre est ouvert à tous, même aux esclaves. Les acteurs le sont d'ailleurs le plus souvent, car le métier d'acteur est infamant. Indigne d'un citoyen romain, puisqu'il faut interpréter un rôle, donc ne plus être citoyen, même un moment. Les femmes sont interdites sur scène. Leurs rôles sont joués par des hommes. Ils exécutent des comédies très populaires ou des tragédies, plus intellectuelles, qui le sont moins. Si leur jeu ne plaît pas, ils sont battus. Pompée fait bâtir en 55 avant Jésus-Christ le premier théâtre en pierre. Avant, ils étaient en bois. Le plus grand cirque de Rome, le Circus Maximus, accueillait 300 000 spectateurs pour les courses de chars, les courses à pied, les parades militaires.
Sous le règne de Titus, en 80 avant Jésus-Christ, le Colisée contient 50 000 places. Là se déroulent les spectacles préférés du public, amateurs de sang et d'exécution. Les combats de gladiateurs opposent trois types de combattants. Les Samnites, casque, bouclier long, jambière à gauche, glaive. Les Rétières, trident, filet, protège-bras. Les Thraces, casque, petit bouclier rond, jambière, sabre court recourbé. Il existe deux types de combats. Avec mise à mort obligatoire, un seul sort vivant de l'arène, ou sans mise à mort obligatoire. Dans ce second cas, le vaincu est le plus souvent gracié s'il a fait preuve de courage. Les gladiateurs, esclaves ou hommes libres engagés, sont des professionnels. Ils font du spectacle, prennent garde à ne pas s'infliger de blessures mortelles. Après de nombreuses victoires, un gladiateur est libéré. Les bêtes fauves sont opposées aux gladiateurs ou se battent entre elles. On les utilise aussi pour la mise à mort de certains condamnés. Les naumachies sont une reconstitution de batailles navales qui se termine toujours par le massacre des esclaves utilisés comme figurants car ils ont peu de chances de survivre au combat qui est bien réel.